Un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
On peut toujours noter ses gestes, quelques dates, des horaires. On peut toujours se redire un par un le nom des animaux qui voyagent avec nous plus bas. Sitôt que l'on commence à s'imaginer si loin de chez soi sur la carte, au beau milieu de l'océan, quelque chose en nous se perd ou se trouve, mais certainement pas comme d'habitude. Bizarrement, tant d'eau autour de soi assèche la langue, diminue le nombre de mots dont on dispose. C'est en tout cas ce que vous écrivez, ou peut-être comme vous écrivez, Francis Tabouret, dans votre texte « Traversée » publié aux éditions POL. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
D'habitude, vous prenez l'avion avec des animaux et un jour, vous embarquez. Donc, on embarque aussi.
Eh bien, on se trouve devant un bateau de la CGM qui s'appelle le Fort Royal, qui est l'un des quatre bananiers qui fait la rotation régulière entre la France et les Antilles, et donc qui porte des bananes. Ce qu'on appelait les bananiers avant, c'était des cales remplies de bananes. Aujourd'hui, les bananes sont dans des conteneurs, donc dans des boîtes métalliques, transportées devant nous par des grandes grues. Bon, bah là, on s'apprête à monter sur l'échelle de coupée, la petite passerelle qui monte sur le Fort Royal, avec une belle coque noire. Et puis, bon, bah, l'échelle, ça balance un peu. C'est déjà un avant-goût du roulis et du tangage, quoi. Donc, welcome aboard.
Bonjour, monsieur. Pilote 7, Tirando, 8m80. Oui, instruction, s'il vous plaît.
Résolution 6, bonjour.
Résolu, bonjour, bonjour à tous. Vous prenez l'arrière.
Oui, bien.
L'arrière, les passerelles.
L'arrière, écoute.
On est à la proue du bateau, c'est un endroit extraordinaire parce qu'on avance dans le vide, on sent presque pas la vibration du moteur. On a une impression de vitesse beaucoup plus forte que quand on est sur la passerelle. En se penchant un peu, on peut voir le bulbe du cargo qui avance sous l'eau et c'est comme une espèce de baleine qui précède le bateau et c'est très beau à voir. Je suis encore plus fasciné par le sillage que par l'étrave. Parce que le sillage, c'est la trace éphémère que laisse le cargo derrière lui. Et c'est ce qui permet de voir la route qu'on suit. Souvent sur une mer calme, on a ce sillage d'écume blanc tout droit comme une autoroute de la mer et comme une cicatrice qui se referme tout de suite. Parce que c'est ça qui est magique avec l'eau, c'est qu'on la fend, on la déchire et qu'elle se referme tout de suite en laissant une petite dentelle derrière qui indique que le chemin est parcouru et très vite tout est remélangé, redistribué par les vagues, les courants et c'est magique. Ouais.
Bon, c'est pas exactement le même nom de bateau. Lui, c'est Fort Royal. Vous avez voyagé sur un bateau qui s'appelle Fort Saint-Pierre. C'est un reportage diffusé en 2007 sur France Inter. Un reportage de Gwenel Abolivier. Francis Tabouret, j'ai précisé que d'habitude vous prenez l'avion. Pourquoi ?
Je prends l'avion parce que depuis quelques années, j'exerce la profession de convoyeur de chevaux. C'est-à-dire que j'accompagne des chevaux qui sont exportés généralement d'Europe vers d'autres pays. Et ça se passe dans des avions de marchandises.
Et un jour, vous découvrez que ça peut se passer ailleurs.
C'est plutôt qu'un collègue un jour me dit, pour aller aux Antilles, il n'y avait plus d'avions de marchandises. Que les lignes avaient été fermées et que les chevaux devaient reprendre la mer, comme au 19e siècle. Et sitôt qu'il m'a dit ça, moi, j'ai eu qu'une envie, c'est d'y aller. Et donc j'ai cherché la personne qui organisait ça, je me suis fait embaucher et je suis parti pour une première traversée de métropole jusqu'aux Antilles avec 12 chevaux.
C'est la traversée que vous racontez ?
Non, celle que je raconte c'est la seconde, j'en ai fait deux. J'en ai fait une première, j'avais déjà l'idée de l'écrire. peut-être, je ne sais pas, si j'étais pas assez résolu, ou peut-être aussi que j'ai été un peu sidéré, en fait, comme ça s'est dit, vous l'avez dit, je crois, au début, de l'assèchement des mots qu'il pouvait y avoir dans cet espace-là. Ça a été une expérience très forte, mais je n'en ai pas ramené beaucoup de notes, ou en tout cas, pas suffisamment pour avoir confiance pour en faire un texte. Donc voilà, quelques mois plus tard, me disant que vraiment il y avait dans ce temps, dans cet espace, dans ces 15 jours de traversée, une belle matière, un lieu, un endroit sur lequel et où écrire, je me suis fait embaucher à nouveau et je suis parti pour une seconde traversée sur un bateau qui est un bateau sœur, c'est-à-dire c'est pas le même nom, mais c'est le Fort Saint-Pierre, la fois d'avant c'était le Fort Sainte-Marie, mais ces bateaux se ressemblent, sont identiquement, à part le nom, c'est vraiment les mêmes bateaux. Et cette fois-là, une petite semaine avant le départ, on m'a demandé si ça ne me dérangeait pas d'avoir d'autres animaux. Ce à quoi je dis, avec un petit sourire, oui, ça me dérange. Non, pardon, non, ça me dérange pas.
Sachant que vous soignez les chevaux, hein,
voilà,
c'est
mon métier,
ça votre
voilà,
travail.
Je suis soigneur de chevaux. Et je crois que quelque part, je m'attendais, ou en tout cas, j'avais bien envie de ce genre de choses-là, c'est-à-dire d'avoir d'autres animaux. Et donc, on m'a proposé de partir avec des chevaux, des moutons et des taureaux.
Ce qui changeait un tout petit peu la donne, on verra tout à l'heure. Vous le dites, ils se ressemblent, ce sont des bateaux sœurs. Tout à l'heure, dans le reportage, on entendait quelque chose qui décrivait, avec le son, le bateau. Une partie du début de votre livre, Francis Tabouret, participe à ça, à la description du bateau. Si on essaye de le faire dans d'autres mots, ça ressemble à quoi un navire qui fait métropole les Antilles, avec entre autres des animaux en son sein ?
La première impression qu'on en a, en tout cas quand on vient de terre, c'est quelque chose d'immense. On est sur un quai, et je crois que j'ai écrit une falaise. Moi j'ai embarqué à Rouen, et tout d'un coup il y a ce bateau qui arrive, c'est une falaise qui vient s'installer le long d'un port. C'est une masse, c'est quelque chose de très physique, c'est une masse métallique. Celui-là faisait 200 mètres de long, et ça semble impressionnant, mais je le dis parce que pour les marins, c'est un tout petit bateau. Celui-là prend 2000 conteneurs. Les plus grands aujourd'hui font 400 mètres de long, en prennent 20 000. Donc pour moi, ça m'apparaissait comme une masse immense. Pour les marins, c'est peut-être un petit bateau.
Et c'était une masse que vous considériez immense rapport à votre corps, rapport au bateau qui était dans le port, rapport à, je ne sais pas, peut-être les bâtiments avec lesquels vous avez normalement à être en vis-à-vis. C'était une masse qui vous apparaissait grande. Pourquoi et comment ?
Peut-être parce que avant de partir, ce que je fantasmais entre guillemets, c'était l'immensité de l'océan. Moi, je n'avais jamais navigué. Mais l'océan, je le connaissais que par l'atlas, par la carte, et bon, ça m'avait fasciné. Mais
devait être grand. Quoi.
Voilà, c'est ça qui devait être grand. Je m'attendais à des vagues immenses, à être perdu dans la masse liquide, en fait, me sentir tout petit dans la masse liquide, et que ce soit tous les deux traversés. Pas une seule fois, je me suis senti petit dans une masse liquide. Par contre, dans le bateau, dans les couloirs, les interstices, le labyrinthe des cales, du château, de la tour, des escaliers, de l'ascenseur, entre les conteneurs, là oui, c'est très très grand.
Et avant cela, vous dites aussi vous sentir pas très grand, sinon petit, sur les quais, dans un port, qui est un lieu particulier quand on ne le connaît pas. D'ailleurs, vous ne cessez d'être en qualité de passager, hein, malgré le travail que vous exercez à bord. Ça donne quoi comme échelle, un homme qui se promène, qui n'a pas l'habitude dans des endroits comme ça ?
Déjà, il n'est pas censé se promener.
Déjà, il n'est pas du tout censé se promener. Il est censé monter dans une voiture et vous écrivez, c'est pas un lieu pour marcher à pied.
Voilà, on marche pas à pied dans ces lieux-là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'était la marine marchande au 19e ou peut-être jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ce qu'on appelait les bananiers qu'il y avait dans le reportage a été déchargé à l'épaule par les dockers. Aujourd'hui, tout est automatisé. Même pour le port du Havre, par exemple, ce sont ce qu'on appelle des cavaliers, d'ailleurs. Ce sont des engins qui prennent les conteneurs et les déplacent automatiquement.
D'ailleurs, là aussi, vous écrivez des échelles qui vacillent dans votre regard parce que vous avez l'impression que ces conteneurs qui sont soulevés, ils sont bien plus légers parce qu'ils sont soulevés par des machines qui ont beaucoup de puissance et que tout flotte déjà, en fait, avant même que vous n'ayez commencé la traversée.
Oui, peut-être aussi parce que de nos jours, les ports ne sont pas accessibles au public. Et déjà, c'est comme une frontière qu'on passe quand on rentre sur le port. C'est grillagé, il y a une guérite, un contrôle de sécurité. Et on rentre dans cet endroit où il n'y a plus trop de piétons, déjà. Un peu comme sur le bateau, ensuite, il y a très peu de marins. Déjà, sur le port, il y a peu de monde. Et donc, il y a surtout des engins, des alignements et des alignements et des alignements de conteneurs. Et donc, on est presque un peu incongru. Notre présence est incongrue.
Est-ce que vous avez une forme de trac, une forme de hâte, une forme de peur avant que de commencer à naviguer?
Alors, je peux peut-être parler de la deuxième traversée, celle que, sur laquelle j'ai écrit. J'avais une hâte parce que vraiment j'étais parti pour l'écrire. J'avais une détermination de dire cette fois-ci je vais l'écrire ce livre.
Sachant que faut quand même dire que vous avez une pratique d'écriture par ailleurs, hein, ça n'arrivait pas non plus complètement nulle part.
Non. Et je me rappelle ensuite que ce qui m'a été étonnant, c'est que je crois que la première traversée, je l'ai fait un an avant. Et sitôt que je suis rentré sur le port et après que je suis monté sur le bateau, j'ai l'impression de revenir chez moi. C'est-à-dire que le bateau était tellement identique à celui de l'année précédente, les gestes, les déplacements, que c'est comme si tout d'un coup, je rentrais chez moi et que le voyage que j'avais fait était celui que j'avais passé l'année précédente sur Terre. Et c'est ça qui m'a marqué, en tout cas la première impression que j'ai eue sur le port était celle-là.
La hâte d'écrire, elle se présentait parce que vous aviez vécu un premier voyage, que vous sentiez même dans le manque de mots qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à rédiger. Est-ce que vous l'aviez dit, vous envoyez après l'avoir écrit votre manuscrit à Paul Tchaïkovski-Laurence, est-ce que c'est quelque chose qui se savait autour de vous, que ce voyage serait aussi un voyage d'écriture?
Quelques amis le savaient, oui. Mais pas beaucoup plus. Hein.
Première vitesse et premier bruit. L'air qui s'engouffre entre les piles de containers et, plus que de l'eau dont je ne sais pas où il faudrait aller pour l'entendre et dire sa musique, c'est à travers lui que l'on va. Quelle vitesse! Le foin vole et les chevaux se méfient encore de cet environnement, de ces écuries nouvelles. Ne se reposent pas vraiment. Gardent un œil sur leurs si proches voisins, calculent chacun de leurs pas, épie chacun de mes passages. J'ai affiché les noms des bêtes, le plan d'occupation de l'écurie dans le conteneur bleu, au-dessus du foin. Cœur de perle est malade. Elle. Petite pouliche et si petite santé. Les bourrelets, petite colline, sur la corne de ses sabots. Archive des carences passées. Son ventre un peu trop ballonné, son poil un peu trop terne. Ni poil d'été, ni poil d'hiver. Son appétit si timide. Qui aujourd'hui ne veut plus trop se lever. Regarde son ventre qui lui fait mal. Aiguille et seringue. Petite pouliche de 2 ans. C'est un grand voyage. Ton ventre noué d'angoisse. Ton sang chaud qui coule sur mes doigts. Tout ira bien.
J'évoque et je questionne votre peur à vous, Francis Tabouret, avant d'embarquer sur ce très gros bateau de 200 mètres. Et on entend à l'instant un extrait de votre texte traversé, lu par Romain de Bec de Lièvre, où la peur en fait est du côté de l'animal et de la petite pouliche. Comment faire entrer des chevaux, des taureaux et des brebis dans un si gros bateau?
Donc très concrètement, ils voyagent dans des conteneurs qui sont aménagés pour le transport des animaux, c'est-à-dire qu'un côté est ouvert. Il peut mettre une tête dehors, si vous voulez. Donc ça constitue leur étable, écurie, bergerie. Et donc on charge les animaux à terre, sur le quai, dans ces conteneurs. Et ensuite, ils ne sortiront pas du tout le temps de la traversée. Il y a une litière de copeaux au sol. Et ensuite, ces conteneurs sont amenés jusqu'à flanc de bateau sur le quai. Et ensuite, sont attrapés par la grue. Et donc avec les animaux dedans, ils sont levés à une quarantaine de mètres de hauteur et sont posés. Je crois que je me rappelle de la position, parce que chaque place a un numéro, en position 28. La position 28, c'est le centre du bateau. C'est-à-dire, c'est l'endroit, si jamais il y avait de la mer, où on ne sent quasiment pas le roulis ou le tangage. C'est le point de gravité, si vous voulez. Donc c'est à cet endroit-là qu'on place les animaux. Et ensuite, normalement, si vous voyez un porte-conteneur, chaque espace est rempli de conteneurs. Il n'y a pas un espace de libre. Donc là, quand il y a des voyages avec des animaux, on supprime une pile de conteneurs qui sert en fait pour accéder en fait aux animaux, parce qu'il y a un conteneur qui est leurs conteneurs à eux sont ouverts sur un côté, et donc cette pile supprimée est au centre du bateau. Et si vous voulez, ça peut faire un peu comme une cour de ferme. Donc ces animaux, ces conteneurs animaux, je ne sais pas si vous me suivez toujours.
Complètement.
Très bien. Sont au centre du bateau en pontée, c'est-à-dire sur le pont. Ils sont au rez-de-chaussée. Dessous, vous avez les cales, vous avez 5 étages de conteneurs en dessous sous les cales, vous avez le pont et eux sont au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, ils donnent sur cette petite cour de ferme. Donc il y avait, je crois, 4 conteneurs qui étaient face-face, qui donnaient cette petite cour de ferme. Et ensuite, le bateau, il faut bien qu'il soit rempli, d'autres conteneurs sont empilés au-dessus des animaux et de tous les côtés. Et seul reste cette pile supprimée, cet espace vide, qui est un petit peu comme une crevasse dans un glacier. Si vous voulez, ce qu'il y a 5 étages au-dessus, on a à peu près une quinzaine de mètres, 15 à 20 mètres de hauteur au-dessus. Et donc on est au fond de cette crevasse. Et donc les animaux, eux, regardent dans cette cour de ferme. C'est l'espace, leur espace, l'espace du voyage.
C'est leur horizon, quoi, pour 12-15 jours.
Leur horizon, c'est un autre conteneur et un autre conteneur occupé par d'autres animaux.
Je pose la question de savoir aussi comment ils rentrent, parce que vous avez l'habitude de les faire rentrer dans un avion. C'est pas exactement pareil, j'imagine, que de les voir être soulevés par des machines et puis ensuite être au milieu de ces conteneurs-là. Ou alors, pour vous, finalement, quel que soit ce qui les transporte, c'est pas la question.
En fait, la façon, le chargement change peu, en fait. C'est-à-dire, ce qui change vraiment, c'est la durée, le temps. C'est-à-dire qu'un voyage en avion, on part 10 heures, 15 heures maximum. Là, on part 15 jours. Voilà, c'est ça, c'est ce qui change pour eux au niveau du soin qu'on va apporter. C'est-à-dire, là, on va les nourrir, ils vont dormir, il y a plus de risques, mais qui sont les mêmes risques que ceux dans une écurie, une étable habituelle, qui sont le risque du temps qui passe. Et le fait qu'on puisse pas les sortir, qu'il faille les soigner à l'intérieur. Donc voilà, la vraie différence, elle est vraiment dans le temps.
Quand vous écrivez « Tout ira bien », vous l'écrivez comme quelque chose qui est dit à cette pouliche. Ça dit la relation, l'immédiateté de la relation qui s'établit entre vous et ces chevaux, qui sera pas exactement la même avec les taureaux, ni la même avec les brebis. Comment est-ce que vous la qualifieriez, cette relation-là ? Qui existe en fait dans votre texte, parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on parle pas de littérature. En fait, on rentre par une porte qui est peut-être plus technique et descriptive que d'habitude, parce que c'est un peu spécifique, mais c'est vraiment un texte. Et donc, c'est quelque chose que vous écrivez, cette relation. Comment est-ce que vous en parleriez ?
En tout cas, c'est un compagnonnage. C'est-à-dire que je suis sur le bateau, je suis avec eux. C'est à la fois une relation... de soigneurs, donc paternantes ou maternantes, si on veut, on a des vies en charge. Si on leur amène pas à manger, ils n'ont pas à manger. Donc vraiment, on est en charge de vie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le compagnonnage, c'est-à-dire du fait surtout que sur ces bateaux, il y ait peu de monde, le vivant, c'est quand même beaucoup les animaux. Et donc moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à les regarder. À les regarder à la fois parce que ça fait partie du métier, il faut les regarder suffisamment pour savoir s'il faut changer un petit peu l'alimentation, faire un petit soin, vérifier la chaleur d'un pied, des petites choses comme ça, parce que voilà, parce que ça fait partie du métier, et aussi parce que ça me faisait du bien de les regarder, que c'était une façon d'entrer en relation. Après, dans le contact, oui, je leur parle, mais je leur parle peut-être pas les mots qui sont les plus importants, c'est les intentions. Ce qu'on va dégager, qui va rassurer. Ou si un cheval vous bouscule, va lui dire ah, attention, fais attention à moi, écarte-toi.
Je dis que c'est assez différent avec les chevaux d'avec les autres animaux, parce que les chevaux, vous en avez plus l'habitude, et que vous vous retrouvez avec quand même des sacrés gros taureaux, et aussi des brebis que vous n'avez pas l'habitude ni de regarder, ni de soigner. Qu'est-ce que ça fait de découvrir ce face-à-face dans quasiment un huis clos, en fait, Francis Taboué?
Oui, c'est un huis clos.
c'est petit.
Mais c'est peut-être que c'était un voyage. Le côté voyage nouveauté, le fait d'avoir de nouveaux animaux était un voyage pour moi, une découverte. J'ai une cousine qui était bergère, donc je l'ai appelée, on en a pas mal parlé au téléphone, en tout cas des brebis. J'avais une amie qui pas mal travaillait avec des vaches, on en a pas mal parlé au téléphone. J'ai lu des livres. Et puis après, bon. Et certes, il y a des spécificités, mais on est quand même dans des espèces du bétail domestique, dont, même domestiqué, l'instinct reste celui de la proie et pas celui du prédateur. Donc, la façon d'approcher peut être un petit peu similaire. Après, simplement, voilà, les réactions. ce ne sont pas tout à fait les mêmes entre un taureau et un cheval, mais dans l'ensemble, c'est quand même des animaux de ferme, si on veut.
Et ça bouge, c'est l'une des choses qui évolue au fur et à mesure de votre texte traversé. On sent que la nouveauté, donc la rencontre avec ces autres animaux, est l'un des voyages, vous le disiez. Qu'est-ce qui se tisse petit à petit, les jours passants, et qui vous a aussi permis d'écrire ça d'un point de vue dramaturgique, c'est-à-dire que bah, quand on écrit un livre, il faut dire ces choses, ces petites choses qui bougent. Là, en l'occurrence, elles se passaient entre autres avec les animaux.
En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai pensé avant de le faire. Vraiment, je me suis dit, je monte sur ce bateau et je vais décrire ce qui m'arrive et ce que je vois. Et j'avais pas d'idée ou de plan préconçu. Donc c'est une suite de notes qu'ensuite j'ai retravaillé, et pour beaucoup ces notes, peut-être je les ai composées en fait en travaillant, et le travail d'écurie est, j'allais dire, un peu comme le vélo, mais quelque chose, mettons, on brosse un cheval, on fait attention, mais on peut penser à autre chose en même temps,
quoi.
On peut faire penser à autre chose en même temps, et donc ça m'est arrivé de composer, si on veut, des choses dans ma tête.
Quand vous dites composer, c'est-à-dire que vous disiez les mots dans votre tête.
Oui, voilà, des phrases qui me venaient. Et puis au bout d'un moment, peut-être je trouvais qu'elles avaient le bon poids. Par exemple, je les mâchais, je les remâchais, puis moi j'ai mon petit cahier, je les notais.
Entre un sabot et un cul de taureau et une brebis, quoi.
Oui, et ensuite le soir, parce que des fois j'écrivais pas toujours très lisiblement, je reprenais ces notes, je les mettais dans un cahier dans ma cabine. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été composées un petit peu comme ça. Après, voilà, je l'ai retravaillé à terre parce que je voulais que chaque paragraphe ait un équilibre, se tienne, en fait, que chaque fragment se tienne, soit une petite histoire ou une petite impression à chaque fois. Mais la relation aux animaux est vraiment celle de compagnonnage. En tout cas, là, c'est le compagnonnage du voyage, en tout cas.
Et vous disiez tout à l'heure, finalement, ce sont eux aussi le vivant, ils sont au cœur du bateau, on a pris soin de les mettre à un endroit où ça bouge pas trop, si jamais ça bougeait. Les autres vivants, ce sont les marins, ce sont la table des officiers, ou pas du tout, justement. Vous décrivez très bien, Francis Tabouret, la manière dont quand même une vie sociale qui s'organise avec des codes, avec des codes sociaux d'ailleurs. Comment est-ce que vous l'avez observé? Qu'est-ce que vous auriez à en dire de cette vie-là?
Mais comme vous dites, c'est une vie qui est très, très organisée. C'est-à-dire que, par exemple, la première chose qu'on vous dit quand vous montez à bord, c'est on mange à 7h, midi, 19h. C'est-à-dire que les horaires sont très importants parce que c'est un lieu de travail et qu'il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Mais il y a peu de, je le répète, il y a peu de monde. Il y a entre 20 et 25 marins. Si vous prenez ceux qui travaillent de nuit, ceux qui travaillent à la machine, qui sont un petit peu comme des mineurs de fond, c'est des gens qui...
Vous les croisez peu, quoi.
On les croise peu. Donc moi, je croisais le Bosco, l'homme du pont, qui venait faire sa tournée. Je croisais les deux frigoristes qui venaient faire relever deux fois par jour le bon fonctionnement des conteneurs réfrigérés. Donc eux passaient deux fois par jour. Et ensuite, moi, je n'avais pas besoin d'être avec les bêtes toute la journée. Souvent, j'allais à la passerelle, au poste de pilotage, mais je allais passer du temps avec le timonier. Donc petit à petit, oui, j'ai découvert un petit peu les codes. Les codes sont très liés au poste, c'est-à-dire quelqu'un, il est électricien, d'ailleurs des fois on l'appelle comme ça. Il est timonier, il est second capitaine. Donc ils sont liés au poste et ensuite aux nationalités. C'est-à-dire que les nationalités, là il y avait quelques marins français, principalement ensuite des marins philippins et quelques marins indiens. L'internationalisme, du fait des différences de durée d'embarquement, c'est-à-dire qu'ils vont, pour les marins français, de deux mois à terre, deux mois en mer. Pour les marins philippins, 6, 9 ou 12 mois en mer et un mois à terre. Du fait que les équipages n'embarquent pas tous en même temps au début. C'est-à-dire qu'à une escale, mettons, l'électricien descend, un autre électricien revient. Et l'escale suivante, un timonier descend, un autre remonte. Du fait des différences de rémunération, l'internationalisme est assez compliqué à bord. Moi, j'avais la chance du fait des animaux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui brise la glace. C'est-à-dire, les gens venaient voir les animaux de temps en temps. Et donc, ça engage la conversation. C'est quelque chose, même s'il y en a régulièrement sur ces bateaux, de pas si habituel que ça, quand même. Et c'est une...
Et comment on vous appelait, vous?
Oui. Dans le jargon, les Philippins disent le cowboy pour celui qui s'occupe des bêtes. Voilà.
Et je vous ai coupé, vous alliez dire autre chose.
J'ai perdu ce que je voulais dire.
Évidemment, c'est pas très grave. Comme ça. On va écouter une autre auteure dans ce cas. Elle s'appelle Clarence Boulet. Elle était au micro de Romain de Bec de Lièvre en décembre dernier. Elle a écrit un livre, alors un petit peu sur une traversée, mais c'est pas ce passage qu'on va entendre. Un séjour passé sur une île qui s'appelle Tristan d'Acunha. Elle parle d'un temps particulier.
Nous, on a l'habitude de rythmer les choses avec la manière dont on les nomme. Il y a le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Là-bas, c'est pas pareil. Alors, il y a effectivement le dimanche, qui est le jour de la messe, le jour de congé, le jour off. Mais les autres jours de la semaine sont relativisés par d'abord le sens du vent. Le sens du vent va avoir une importance capitale dans l'organisation de la communauté. Un vent de sud-sud-ouest va permettre d'aller dans les deux petites îles qui se trouvent au sud de l'île de Tristan da Cunha. Un vent de nord-est va pouvoir permettre d'aller sur un autre point de l'île pour aller voir les vaches sauvages qui paissent de ce côté-là, etc., etc. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est pas on y va lundi mardi, c'est on y va the first fine day, le premier suitable day, le premier jour de beau temps. Et c'est pas évident quand on n'est pas habitué à ce genre de temporalité. Et au-delà de ça, il y a effectivement un rythme qui est très fortement lié aux saisons, à la saisonnalité des moutons, des cultures de pommes de terre, des vaches avec pour les moutons l'agnelage, ensuite des jours comme ça, un jour par an où on va tondre les moutons pour ensuite laver, carder, tricoter la laine, etc. C'est-à-dire que l'année est rythmée au rythme des nécessités liées à la nature. Et en même temps, au quotidien, effectivement, il peut y avoir des longs temps où il ne se passe pas grand-chose, puisque la saison de pêche est arrêtée pendant quelques mois pour que les langoustes puissent se reproduire. Et là, on a un temps qui est une matière qui s'écoule. Et encore une fois, quand on n'est pas habitué à cette matérialité du temps, elle peut paraître surprenante et difficile à dompter.
Un temps difficile à dompter, c'est Clarence Boulet qui a écrit Tristan, publié chez Sabine Vespizer, éditeur. Francis Tabouret, vous parlez aussi d'un temps peut-être pas difficile à dompter, mais en tout cas qui vous étonne, qui vous surprend, qui vous déplace, voire qui vous perd un peu. À quoi tient-il ce temps-là?
En fait, ce qui est très étonnant sur le bateau, c'est qu'on a à la fois des journées extrêmement rythmées.
Vous le disiez tout à l'heure, voilà. Hein, 7, 12, 19, voilà.
il faut
être là à table.
Ensuite, le fait aussi que les animaux mangent à l'heure fixe. Et en même temps, les jours se ressemblent. C'est-à-dire que, et au bout d'un certain nombre de jours, qu'est-ce qui va différencier celui d'aujourd'hui de celui d'hier? Il n'y a pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement à bord. Et c'est là où le temps peut-être se délite. C'est-à-dire que je crois qu'au bout d'un moment, si on m'aurait demandé au bout de 8-9 jours, depuis combien de jours tu es à bord, j'aurais pu dire 5 ou 12. Il n'y aura rien qui m'aurait dit qu'elle parle des jours de la semaine. Ah, si, sur le bateau, il y a le dimanche qui est légèrement différent.
Elle, mais aussi, ça, elle aussi, elle dit
voilà,
ça.
Voilà, il y a le dimanche aussi, oui, qui est légèrement différent. Mais sinon, il n'y a rien qui les différencie. Donc le temps se délite un petit peu. Et ajouté au fait que, vu qu'on va vers l'ouest, on change d'heure. Et donc, quand on voyage en avion, on arrive, on prend 6 heures de décalage ou 12 heures d'un coup. Là, on change d'heure une heure chaque jour. Ce qui est plus doux, si on veut, mais qui a quand même un effet sur le corps. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, aussi, on se réveille de
plus
en plus tôt.
On sait plus trop l'heure qu'il est, quoi.
On se réveille, on a la montre, mais on se réveille de plus en plus tôt. Et puis le soir, il est 20 heures, mais tout d'un coup, non, il est une heure de plus. Et voilà, le temps s'effrite un petit peu.
Peut-être rajouter à cela le fait que vous n'avez pas, vous pensiez, vous, Francis Tabouret, avoir grosse mer, être perdu dans les vagues, dans un océan démonté, et c'est pas du tout ce qui se passe. Peut-être ça joue aussi sur le non-événement que vous évoquez.
Tout à fait, cette traversée, la mer était d'huile, et restait d'huile tout le long. C'est-à-dire que les seules variations qu'il y avait, c'était la variation très progressive de la couleur de l'eau. C'est-à-dire que le bleu autour de la Bretagne est un peu gris-noir, très minéral, j'allais dire. Et plus on va vers les Antilles, au bout, on arrive sur un bleu électrique, très, très étincelant. Ensuite, il peut y avoir les nuages, qui sont une très belle chose à observer, qui vont être des petites variations du paysage. Mais on est dans une épure progressive de ce qui nous entoure. D'autant qu'on ne croise pas, une fois qu'on a passé le golfe de Gascogne, et les Açores, on ne croise pas d'oiseaux, de bateaux, d'îles.
ce qui vous fait aussi écrire qu'il y a la littérature de tempête, évidemment, la littérature de naufrage, et vous la cherchez un peu des yeux, la littérature de mer calme, qui est celle que vous produisez. Ça a donné quoi comme peut-être transformation de votre langue, ou à quoi ça vous a invité?
C'est pas une question facile. En fait, je crois que c'était très bien pour moi, cette lenteur. Et que c'est peut-être pas pour
ce
rien.
Ce calme.
Et c'est peut-être pas pour rien que j'ai écrit sur ce métier-là, à l'occasion de ce qui est moins habituel pour moi, c'est-à-dire un voyage en bateau, quelque chose où il y a le temps, où il y a une lenteur, où il y a le temps de poser son regard sur les choses. Parce que moi, ce qui m'est très précieux, ce sont mes yeux. Donc j'avais vraiment envie de décrire, ce que je voyais, ce qui était autour de moi. Et je pense que cette lenteur permet ça. C'est-à-dire permet de poser le regard suffisamment longtemps pour qu'ensuite les phrases viennent, mais j'ose dire la poésie vienne, mais en tout cas c'est à travers le regard et le temps que le regard a que ça peut venir.
Et d'ailleurs, vous pouvez absolument oser pour la poésie, d'autant plus que c'est intéressant que vous parliez de vos yeux et du regard, parce que vous témoignez de ce regard posé sur les choses pendant cette traversée, et par exemple, parfois des choses deviennent peintures, deviennent des torii, des portes sacrées au Japon. On sent qu'il y a quelque chose, je me disais, qui cherche le motif, ou qui le peint, ou qui le regarde, peut-être tout simplement.
Oui, mais en tout cas, je pense vraiment que c'est le temps permet aussi de faire remonter des petites bulles d'inconscient, de souvenirs, d'autres choses, de références. Que tout d'un coup on va voir dans un pont ou quand on va voir dans un nuage, ça va ramener des choses de soi.
Comme une sorte de vide un peu qui ferait appel d'air. Vide n'est peut-être pas le bon mot, mais...
Oui, peut-être. Ouais. C'est étonnant parce qu'il y a à la fois ce vide et à la fois ce bateau qui est quelque chose de très enveloppant. C'est-à-dire qu'il y a toujours, comme on disait au début, cette masse de ferraille et la vibration continue du moteur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de silence à bord.
Et ce qui revenait, c'était davantage des choses, des images. Il y a aussi la musique qui revient de temps en temps, un peu dans le texte. Quelques souvenirs, mais pas trop non plus. On n'a pas eu l'impression que vous étiez non plus envahi.
Non. Et puis vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était, comme vous avez dit, là, comme la peinture sur le motif, autour de littérature du motif. J'ai lu un livre récemment que j'aime beaucoup, là, qui s'appelle Le Pèlerin de John Alec Baker, et à un moment il a une phrase, c'est un livre sur les faucons pèlerins. Il dit le plus dur c'est de décrire la réalité. Et voilà, peut-être à la fois que ça me rassure de devoir décrire la réalité, mais je pense aussi que c'est le plus dur. En tout cas, c'est là où peut se nicher, où je trouve que ça peut se nicher de la poésie, c'est-à-dire en allant vraiment gratter un peu ses conteneurs, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans les marches, qu'est-ce qu'il y a dans les gestes, dans la
répétition.
Qu'est-ce
qui est dur, c'est d'être précis? Qu'est-ce qui est l'enjeu?
Je sais pas si c'est dur, mais en tout cas, c'est là où, pour moi, il y a un accès à la langue. Il y a un accès à l'écriture, en tout cas.
Quand l'espoir y gagne la zèle, s'il doit la gloire avec tout son bruit, soleil il est si ou de cœur frêle, pour montrer à où sa coup détruit. Voir trouve à où dans ou de quatre planches, idia ou zot l'a pas oublié. Oiseaux fiers des six autres branches n'avaient pas besoin mettre son bli. Si ou t'es tout son pis autre poids, mais où la donne à autre tracas, l'été bien bon manse caripois, la rive zot l'air. Explique ça.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Moi t'es la porte, mais des fois, des vandalons que t'es sans toi. Et même si t'es février dehors, t'es obligeant par autres sorts. Moi t'es la porte, mais des fois, devant la longue t'es sans toi. Et même si t'es fait frais dehors, t'es obligeant par le sort. Moi t'es des bois ou la couper, quand t'es fallait fait cuire manger. Bout de carie ou la pas louper, son goût l'a pas moins la changer. Moi t'es des bois ou la couper, quand t'es fallait fait cuire manger. Bout de carie ou la pas louper, son goût l'a pas moins la changer. Pointez la table où n'avait de vin, très raisin, la pas pousse en vin. Poule de goutte était renversée, excuse-moi, la pas fait exprès. Pointez la table où n'avait de vin, très raisin, la pas pousse en vin. Poule de goutte était renversée, excuse-moi, la pas fait exprès. Moi, les lits où t'es dans ces gars, et que jamais le même bouc chaque fois, malgré va dire en moins négat. N'avait les cœurs, te manque la foi. Moi, le lit où t'es dans ces gars, et jamais le même bouc chaque fois. Malgré va dire à moi, négat, n'avait les cœurs, te manque la foi. Quand l'espoir y gagne la zèle, sur le dos la gloire et tout son bruit. Soleil, il est si haut de cœur frais. Pour montrer à où ça coûte détruit. Moi retrouve à où dans haute quatre planches. Il y a où ça l'a pas oublié. Aux oiseaux fiers des six autres branches. N'avait pas besoin de son.
Lundi 6 octobre, Atlantique, jour 8. Au début, je me suis dit, ce n'est qu'un nuage, une ombre sur l'eau, qu'une petite tache sur l'horizon, comme il y en a parfois, et qui toujours est un mirage. Je me suis dit, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Mais non. Cette fois, on avait une île dans l'œil. C'était la Guadeloupe. Pourquoi arriver ? Ce n'est pas un mur. Ce n'est pas un continent. Ce n'est rien qu'une petite île. Qu'un tout petit bout de terre ridicule. Il aurait suffi de virer, de se laisser aller à une tangente, à un courant, à un peu de vent, et on serait passé à côté. C'est trop bête. On est dans une immensité, il y a une île minuscule, on bute dessus. La tache a grossi. D'un point, c'est devenu une masse noire. Tout s'est obscurci d'ailleurs. Il est 17h et on a tant changé d'heure, les aiguilles de nos montres avancées chaque jour, que la nuit vient déjà. Ce que dit l'entre chien et loup, c'est que la mer se fait encore plus sombre et qu'il n'y a plus que le ciel qui est lumière. La nuit, la lune et les étoiles rallument l'eau. L'île, car on est encore à la distance où elle est-il, sonne menace et attirance. Il y a sa masse noire et ses lumières. Son feu électrique qui s'allume petit à petit au pied de ses montagnes. Le long de ce qui doit être ses routes. Et parfois même monte le long de ses pentes. Et cette chaleur nouvelle, moiteur des tropiques, mais qui n'est pas en mer, qui n'est que sur terre, qui s'approche et vous enveloppe, vous recouvre comme un sable, se colle et prend possession de vous. La masse a grossi encore, et c'est devenu autre chose qu'une île.
C'est un deuxième extrait de votre texte, Francis Tabouret, un extrait de Traversée, lu par Romain Daubec de Lièvre, et quelque chose arrive qui nous surprend, je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui traversent, mais en tout cas qui nous surprend, nous, en tant que lectrices et lecteurs, parce qu'on s'y attend pas, en fait, à voir arriver l'île. Et la question que vous posez, pourquoi arriver, on se la pose. Est-ce qu'elle vous a surprise, vous, cette question-là? Pourquoi donc est-on en fait obligé d'arriver quelque part?
Je crois pas que la question m'ait surprise, parce que je pense que c'est peut-être une des principales questions du voyage. C'est-à-dire, comment terminer un voyage?
Vous, c'est comme ça que vous le comprenez?
Oui.
C'est comment dans le sens comment? Parce que moi, c'est plutôt, comment ça se fait qu'on est obligé d'arriver, en fait?
Ah oui, d'accord. Mais je crois, en tout cas, pour moi, ça m'évoque le fait de la fin des voyages, que c'est de toute façon quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'est pas évident. Parce que oui, pourquoi terminer un voyage? Pourquoi arriver? Il y a aucune raison, si on veut.
Mais non, ça dit, quand vous dites ça, ça dit que c'est pas tant un voyage avec une destination. C'est autre chose que ça.
Ça m'a simplement rappelé le souvenir d'un voyage que j'avais fait à vélo de Lille à Marseille. Et là, c'était l'inverse, c'est-à-dire en voyant arriver la Méditerranée, j'avais dit zut, quoi, je continuerai bien. Peut-être parce que dans le voyage, il y a une forme de chez moi. Voilà, un endroit où je me sens bien, où je me sens la possibilité d'écrire, où je vis les choses. Et que peut-être, voilà, le fait de voir arriver la Méditerranée au bout du voyage à vélo, et là de voir arriver l'île au bout de la traversée en bateau, sont les signes annonciateurs de la fin des voyages, et qui sont, je pense, peut-être quand même, peut-être pour tout le monde, des questions compliquées.
Comment vous les résolvez à la fois dans l'écriture et à la fois en mer, qui sont deux choses différentes?
En mer, on n'a pas trop le choix, on pilote pas le bateau.
Vous avez quand même envie, vous écrivez, en tout cas je ne sais pas si c'est le cas, j'aimerais bien remettre les animaux dans les containers et qu'on ne parte pas et qu'on continue de naviguer et que ça ne s'arrête pas.
Oui. Il y a peut-être plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que voilà, j'ai vécu un voyage assez fort le temps de cette traversée de l'Atlantique et j'arrive dans un endroit qui n'est pas chez moi. C'est-à-dire, j'arrive en Martinique, un endroit que je ne connais pas, et c'est comme si tout d'un coup vous avez un deuxième voyage qui s'offre à vous sur un plateau, mais moi j'étais déjà rempli. Je n'avais pas la place pour un deuxième voyage. Voilà, ça c'est peut-être la première raison. Parce que je me suis créé un quotidien. Et qu'il y a le deuil aussi de ce quotidien, le deuil du compagnonnage des animaux. Voilà. Et enfin, je dirais, parce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur vraiment l'épure de l'environnement, l'épure du paysage qu'on a, l'œil qui s'est aiguisé, qui commence à voir des choses de plus en plus fines, tout d'un coup, on arrive et il y a quantité de choses sur une île ou sur Terre. Il y a tellement de personnes, il y a des grands, des petits, des jeunes, des vieux, des voitures, des publicités, des arbres. C'est génial, mais il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, la transition, le débarquement ou la chute, vraiment, il n'y a pas de sas. Tout d'un coup, vous étiez sur le bateau, vous êtes à terre. Et donc, que faire de tout ça, en fait? Je crois que le premier jour, je ne suis pas sorti de ma chambre d'hôtel.
Et vous avez écrit?
Oui, j'ai continué à documenter ça, parce que c'est des choses fortes qui se passaient en moi. Oui, j'ai continué à l'écrire, oui.
Parce que quand vous dites que faire de tout ça, finalement, je me dis, bah, l'écrire.
Bien sûr.
Ou le mettre, qu'en faire, oui, une fois sûr, que le voyage est terminé.
Oui, oui. Quand je disais qu'en faire, c'est parce que la question se posait à moi. Après, oui, je l'ai écrit, mais c'est qu'est-ce que je fais de mon corps, tout simplement. Est-ce que je sors dans la rue? Est-ce que je me taire? Est-ce que je me... C'est marrant le mot. Oui, j'ai envie de retourner sur le bateau. Mais voilà.
Et pas tout seul. Vous avez envie d'y retourner avec les bêtes.
Oui, bah, simplement parce que... En même temps, je me dis, qu'est-ce que ça doit être pour des marins qui embarquent 6 à 9 mois? Moi, je ne suis parti que 15 jours. Et je sais, par des gens que je connais un peu dans ce milieu-là, que les premiers jours à terre sont toujours assez étranges pour les gens. Et moi, je vois rien qu'en 15 jours... Voilà, ces deux premiers jours à terre, je les ai vécus vraiment de façon très forte. Parce que vraiment, on vit dans un monde, dans un temps, dans un espace qui sont très très éloignés de l'espace et du temps sur Terre.
Et puis, vous parliez du deuil, d'un regard qui s'est peu à peu aiguisé. Et puis, on commençait tout à l'heure la conversation en discutant de ce lien aux animaux, ce soin qui est un fil ténu, hein, qui n'est pas forcément... au cœur du livre, mais qui est très présent. Et d'un seul coup, une pouliche, un cheval dont vous êtes occupé pendant 12 jours doit partir avec des dames aux grandes jambes qui l'ont acheté sur Internet. C'est hyper violent.
J'espère qu'elle n'écoute pas, ou en tout cas je les salue si elles écoutent, parce que je pense que j'étais peut-être un petit peu de mauvaise foi. C'est-à-dire que je m'étais attaché à ces animaux, et aussi simplement le fait qu'on est dans ce rôle de soignant, c'est-à-dire qu'on a donné à manger. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'ils vont bien manger ce soir? tout simplement. Donc je sais qu'il allait très bien manger le soir même, mais on est dans cette relation de séparation, si on veut.
Et aussi de séparation avec ce nouveau monde qui s'était ouvert à vous, avec les taureaux et avec les brebis, parce que c'était aussi la, alors peut-être la séparation pour des retrouvailles futures, mais les chevaux, vous êtes tout, non mais je veux dire, vous êtes toujours avec eux, les chevaux, et là, c'était aussi quelque chose de très nouveau que de passer tant de temps avec les taureaux et avec les brebis.
Oui, 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 mais je crois vraiment, c'est que c'est, y a ça, et vraiment cette, ce temps et cet espace qui sont tellement différents du temps et de l'espace sur Terre. C'est-à-dire, cette horizon, c'est-à-dire on est sur le bateau, il y a les 360 degrés tout le temps. Oui, il y a la ligne derrière l'étrave là, du remous de l'hélice, mais à part ça, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ce temps, voilà, qu'on ne sait plus depuis combien de jours on est en mer, qui se répète, ce silence aussi, parce qu'il y a peu de conversation, et c'est tout cela qu'on quitte.
Est-ce que écrire et retravailler ce texte pour qu'il devienne un livre, c'était le retrouver ?
Peut-être pas, non. En fait, je crois pas que je l'ai perdu, en fait. Non, je l'ai pas perdu.
En tout cas, c'était le transmettre, alors ?
C'était... Peut-être aussi parce que... je me rappelle, quand j'ai commencé à écrire, ce qui m'est venu après 2-3... J'ai commencé un journal de bord. Je travaillais au Japon. Et j'ai commencé à écrire, puis plus le temps passait... Si j'écrivais pas un jour, ça me manquait, et ce qui m'apparaissait, c'est que c'était une façon de m'approprier mon regard. C'est-à-dire que les choses existaient parce que je les nommais. Voilà, que je faisais une place à mon regard, et que, oui, je me rappelle là, d'une brise entre ma chemise et ma peau, le fait de l'avoir nommée la faisait exister. En tout cas poétiquement, mais peut-être même plus, en fait. Et que le fait de terminer le livre, c'était faire exister le voyage.
Et le fait qu'il soit lu, par exemple, dans les premiers échanges avec Paul Tchaïkovski-Laurence ?
Ben là, en fait, j'ai envoyé mon manuscrit dans une enveloppe, dans une boîte aux lettres, et à 3 éditeurs. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un email de Paul Tchaïkovski-Laurence. Et ben, moi, j'étais très ému de recevoir un email de quelqu'un comme ça. Après, on s'est vu 2 fois, de façon très rapide. Mais des rencontres qui m'ont semblé très longues parce qu'il avait, je crois, chaque mot qu'il utilisait avait le juste poids, était très juste, et donc il n'y avait aucun mot qui ne servait à rien. Donc ce sont des rencontres qui m'ont beaucoup nourri.
Et qui attestaient de votre regard, puisque vous disiez finalement pour moi, écrire, c'est consolider ou faire exister plus fort le regard que je porte sur le monde. Le fait que par exemple lui lise ce texte-là, ça épaississait encore la sensation.
En tout cas, ça me donnait une grande confiance et ça m'a donné une grande confiance dans mon envie d'écrire. Voilà, et de m'approprier, de transformer le monde à travers ce billet-là, à travers l'écriture. C'est comme si on m'avait rempli de motivation et de confiance dans l'écriture.
On va terminer par un texte, un autre, lu par Denis Podalydès. C'est un extrait d'Équador de Michaud.
J'arrivais pour la première fois dans ce pays comme il faisait à peu près nuit déjà. Il restait 2 heures à faire à cheval. 3 cavaliers allaient m'accompagner. Je m'attendais à trotter. On se mit, au contraire, à descendre dans d'invraisemblables pierres, où bientôt, dans l'ombre épaisse, j'étais comme un aveugle. Le cheval connaissait le chemin. À mesure que l'obscurité se faisait plus pleine, son pas devenait plus prudent et sensé. Je le laissais faire. Il tournait ici, puis là, puis atterrissait à un palier plus bas. « Un poco romantico », disais-je stupidement pour dire quelque chose dans le peu d'espagnol que je sais, à mon compagnon en lui montrant un grand arc de nuages qui unissait le Tunguragua à une autre montagne. Il ne répondait pas. Mon cheval était le plus lent. Je perdais de vue les autres, même la jument blanche de Mortensen. On était obligé de m'attendre.
Il y a tout de même des liens, de ces liens modernes. On est coupé du monde, mais pas tout à fait. Les téléphones portables ne fonctionnent pas, mais pour combien de temps encore? L'océan est une zone blanche au temps compté. Ce qu'il y a à bord, c'est un téléphone satellite et le courrier électronique. Deux ordinateurs sont à disposition des marins. Les messages, le courrier, ne sont relevés et reçus que deux fois par jour, à midi et à 22h. J'ai emporté dans mes bagages un recueil des lettres écrites par Vladimir Vaïkovski à Lily Brick. Et ce qui le préoccupe dans ces centaines de lettres, ce par quoi il débute et qui parfois est l'unique objet du courrier, comme en une façon de se saluer, de se dire bonjour mais de taire le reste, de dire j'ai pensé à vous et vous avez-vous pensé à moi, c'est de savoir si sa dernière lettre est bien arrivée. Francis Tabouret, je fais correspondre ce passage de votre texte traversé avec l'extrait qu'on a entendu d'Équador d'Henri Michaud dans la voix de Denis Podalydès, parce qu'il y a quelque chose de bon qui se répond dans vos deux textes et aussi qui fait lien avec le monde extérieur. Ce serait la littérature que vous avez emmenée avec vous sur ce bateau qui ferait aussi partie de ces vivants avec lesquels vous correspondez d'une certaine manière. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu?
Je n'ai pas lu beaucoup, en tout cas, de littérature maritime avant de partir. Il se trouve que j'avais ce recueil de lettres.
De Maïakovski.
Ouais, de Maïakovski. Et qu'il fait, en plus, je crois qu'il fait un voyage, en plus, à un moment ou à un autre, sur un bateau qui s'appelle l'Espagne. Quelle idée qui me vient, c'est peut-être les lettres, dire que chacun des petits chapitres est une lettre dans mon livre. En tout cas, je veux qu'ils se tiennent comme une lettre.
Ça pourrait être presque des mails d'ailleurs, ou des lettres, oui, si vous voulez, pardon.
Ouais,
c'est juste que comme il y a une date.
Non, c'est pas fou, il y en a un paragraphe qui est un mail que j'ai écrit à quelqu'un sur le bateau, qui a été légèrement retravaillé, mais il y en a un qui est un mail, oui. Ensuite, par rapport à Michaud, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé, je crois, juste avant le départ, un tout petit extrait du début d'Équador. Donc il embarque, je crois, à Amsterdam. Il part pour l'Équateur sur un bateau qui s'appelle le Bouscope. Et c'est des chapitres très très courts, vraiment des petits paragraphes. Et il décrit de façon parfaite, en fait, je trouve, à la fois là, ce délitement de l'espace, du temps. Lui, il est sur un bateau, il y a pas mal de monde. Mais, donc les échanges avec des gens de plein d'horizons différents. Et aussi sur ce que c'est d'arriver. Donc là, on m'avait envoyé un petit bateau. Lui, il avait un petit extrait sur son bateau. Lui, il avait une tempête. Et il s'adressait à l'Atlantique. Il interpellait, il disait « mais tu n'es rien, Atlantique ». Il essayait de lutter contre lui. Donc là, c'était des choses que j'avais en moi un petit peu, oui.
Ça vous a manqué, vous, que ça bouge un peu, que la mer soit plus forte et que vous puissiez déployer autre chose, une autre littérature, peut-être adresser d'autres lettres, puisque vous dites que ces paragraphes sont comme des lettres?
Je ne crois pas que ça m'ait manqué au niveau de l'écriture. Après, humainement, oui, à certains jours, j'avais une envie furieuse de tempête. Je me rappelle, il y a un marin, un timonier, qui était tout seul un après-midi de torpeur à la passerelle, et il a mis du hard rock, et c'était très bien qu'il ait mis du hard rock. La musique, on avait besoin de ça. Après, j'étais pas du tout en attente, au niveau littéraire, qu'il se passe quelque chose. Ce qu'il se passait me convenait tout à fait.
Puisque l'objet était vraiment de rendre justement ce réel oui. Par la description. C'est aussi important de parler d'Équador et de parler de Michaud, parce qu'il est présenté comme un récit de voyage. Et vous le disiez dans votre rencontre avec Paul Otchakovsky-Laurence, qu'il y a eu la confirmation d'un désir d'écrire. Est-ce qu'il se situera autre part que dans ce récit du réel, pensez-vous?
Pour le moment, je crois qu'il va rester dans le récit du réel. parce que je pense que le réel est quasiment infini de possibilités. Et en plus, il suffit d'utiliser un conditionnel pour qu'on s'en échappe légèrement.
Est-ce que ça nécessitera d'autres traversées ?
Oui, il y en a une prévue bientôt, mais...
Quoi, sur des bateaux,
il y aura... En tout cas, le projet a trait du déplacement, du voyage.
Je vous remercie beaucoup, Francis Taboret, d'avoir été avec nous ce soir. Le titre du livre s'appelle « Traversée », il est publié aux éditions POL.
Merci.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Au son ce soir, c'était Clément Daté à la réalisation, Lise Marie Barré, Corinne Amar, Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à préparer cette émission que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr quand vous voulez et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h.
Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?